Nous sommes en compagnie de Cheng Yingyu Treiber, journaliste, essayiste et traductrice, qui enseigne les cultures asiatiques et l'apprentissage du regard à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais. Elle pratique la photographie et a tenu une chronique régulière sur les écarts entre les cultures occidentales et chinoises au Nanfang Douche Bao Daily. Elle écrit par ailleurs des articles pour l'Oriental History Review de Pékin. Alors, Cheng Yingyu, vous avez fait en Chine des études de droit et de littérature anglaise. D'où vous vient cette passion pour la France et sa culture ?
Bon, j'aimerais bien d'abord m'excuser pour les fautes françaises que je pourrais faire.
Oh oui, bah alors le français, vous, je pense qu'il est meilleur que mon chinois, donc pas de problème là-dessus. Ouais, non.
Mais c'est aussi la première chose que j'ai fait lors de mes cours, car un certain nombre de gens s'attendent à ce qu'on parle parfaitement le français. C'est un aspect important de la culture française. Pour la langue française, j'ai commencé à apprendre assez tardivement, peut-être vers 27 ans, et quelque chose comme ça. C'est pour ça que pour les accents, etc.
Mais ça va parfaitement bien, très très bien.
Bon.
Mais pourquoi finalement cet intérêt pour la France, justement, tardivement ?
C'est une histoire un peu longue. Enfin, la première chose, peut-être que, comme je travaillais comme photographe à Canton, j'ai un ami qui est photographe aussi. Il a un lien plus serré avec la France. Il a déjà fait des expos, etc., en France. Et il m'a fait aussi connaître aussi le livre de Roland Barthes, La Chambre Claire.
Ah, c'est par Roland Barthes que vous êtes rentré dans la culture française. Ça, c'est
oui.
Pas banal.
Et donc, j'ai lu à l'époque la version chinoise. Je veux dire, la traduction n'est pas terrible. Donc...
Et vous vous êtes dit, et si je le lisais en français un jour ?
Tout à fait, justement. À partir de ça, déjà, que ça me suscite déjà des intérêts pour la France. Et à un moment donné, je me suis sentie coincée dans la photographie. Je voulais aller plus loin. En plus, à un moment donné, j'étais très, très, très malade, j'ai dû arrêter tous mes travaux. Et donc, c'est au ce moment-là, j'aimais bien venir en Europe, en France, pour aller plus loin, à la recherche des théories sur la photographie.
En tout cas, c'était un sacré défi. Et maintenant, en France, vous y êtes et vous y travaillez. Alors, si l'on constate des différences culturelles fondamentales dans la manière de comprendre le monde entre les Chinois et les Français, est-ce qu'il ne faut pas en chercher l'origine dans nos langues respectives, justement ?
Dès que je parle le français, je suis sur le seuil de deux langues. Il y a quelques années, j'ai eu un reportage sur Arte qui a eu beaucoup de résonance en moi. On a interviewé des étrangers de toutes sortes de métiers qui parlent le français en France. Parmi les interviewés, en somme, il y a deux façons d'apprendre de parler le français. Une, c'est de façon mécanique, mais en répétant des phrases, en les apprenant par cœur. Une autre, on laisse la langue fonctionner plus inconsciemment. Dans ces cas, on peut faire plus des erreurs. Il y a la langue natale qui sort plus. Et on la sent parce qu'on est vraiment à la frontière des deux langues. Et je peux dire que c'est la deuxième façon qui me convient le plus. Je la sens plus naturelle. C'est une raison pour cette choix personnel, mais petit à petit, j'ai découvert aussi que les erreurs m'amènent à mieux connaître moi-même, à mieux connaître les langues chinoises, le mandarin, le cantonais, et aussi ma langue maternelle, la langue de Beihai, etc. Je peux vous donner un exemple. C'est dans mes premières années en France, un ami m'a posé une question sur Pékin. Dans le contexte, il voulait dire le gouvernement chinois. Ma première réaction a été de comprendre comme la ville de Pékin.
Bien sûr.
J'ai répondu d'autres choses, autre chose complètement voilà. Différentes. Après coup, j'ai réfléchi sur cette erreur. C'est parce que je sors d'une culture où le politique est tabou. J'ai inconsciemment masqué l'aspect politique de ces mots.
Une autocensure un petit peu.
Un peu, oui. Bien que j'ai travaillé pour le groupe de presse Nanfan, qui est réputé pour la lutte pour la liberté d'expression. Donc, par rapport justement, les mots en français et en chinois, justement, les mots n'évoquent pas les mêmes images.
Bien sûr.
Dans les différentes cultures.
Mais alors, du coup, vous avez un peu deux cerveaux. Vous avez un cerveau français et un cerveau chinois. Ça ne doit pas être facile de les faire fonctionner ensemble. Alors, justement, cette langue chinoise, alors, c'est une langue tonale. On pourrait juste expliquer très rapidement ce qu'est une langue tonale et ce qui la rend si difficile pour nous à apprendre.
Je connais bien l'expression en français, c'est du chinois. Mais est-ce que c'est vrai?
C'est difficile pour nous.
Bon, certes, il y a des côtés difficiles, mais justement, le premier cours que j'ai fait pour mes étudiants, c'est sur la logique des Chinois. Et une fois qu'on a compris la structure de cette langue, finalement, on s'est rendu compte que cette langue n'est pas... Enfin, il y a des endroits... il y a des côtés vraiment difficiles, mais c'est plutôt au niveau des prononciations.
Tout à fait, cette histoire tonale, effectivement.
Oui, voilà. Mais c'est normal pour tout le monde qui veut apprendre une langue étrangère.
Alors justement, parlons de... Il y a l'oral, effectivement, qui est difficile, mais finalement l'écrit. J'ai lu quelque part que la pensée occidentale serait née de la parole et que la pensée chinoise serait née de l'écriture, parce que finalement c'est l'écriture qui est le plus important en Chine.
Pas tout à fait. Au départ, l'écriture des langues, en fait, c'était sur le même chemin. Et à un moment donné, on sépare en deux directions. Même ici, l'écriture, avant l'alphabet phénicien, c'était aussi l'écriture qui veut dire des dessins.
Oui, une écriture avec
des idéogrammes. Je peux faire une métaphore simple, c'est que j'explique avec un exemple. Par exemple, la lune, le mot la lune. Pour les Chinois, l'écriture représente toujours le son lune ensemble. Et ici, pour les langues européennes, donc vous avez, on peut dire, découpé le cheveu en quatre. Donc ça veut dire que vous avez inventé l'alphabet L et lune, U et N.
Oui, du coup, ça vous voulez dire que c'est plus compliqué. Je comprends.
Non, pas du tout. C'est pas plus compliqué.
C'est
juste parce que vous avez trouvé l'unité pour séparer les sons en plus petites unités. Et les idéogrammes cadrent tous ces sons tout ensemble. Mais bon, quand on dit le chinois est difficile, on peut-être imagine que on doit mémoriser mille des idiogrammes différents. Mais curieusement, il y a aussi l'élément phonétique dans l'invention des idiogrammes. Ça veut dire que, en fait, c'est des compositions qui prend l'élément phonétique aussi dans les idéogrammes.
Et donc, puis tout ça fonctionne par association d'idées. Alors on va peut-être quitter le chapitre de la langue où nous pourrions passer des heures parce que le sujet est complexe. Pour peut-être arriver au chapitre des images. Parce que les images, ça ne va pas de soi quand on est européen. Et quand on regarde une peinture chinoise, on se demande bien comment la regarder. Alors, en quelques mots, quelle différence entre une peinture chinoise et une peinture occidentale? Comment ça se regarde une peinture chinoise quand on est français, par exemple?
Maintenant, nos yeux sont beaucoup entraînés dès l'enfance par les images qui sont prises par l'appareil photo. Donc, pour regarder la peinture chinoise, on s'est rendu compte que c'est une autre façon de représenter complètement différente.
On n'est pas dans la représentation de la réalité.
On ne peut pas dire ça non plus.
Je pense au paysage montagnéo, par exemple. C'est une réalité transcendée. C'est pas ce qu'il faut regarder, ce n'est pas cette réalité-là.
La représentation de paysages dans la peinture ancienne chinoise, il y a une raison de développement. Ce n'est pas un jour qui devient comme ça.
Si, bien sûr, il y a une longue histoire.
Si on retourne sur les peintures vraiment très, très anciens, on voit qu'ils ont encore des angles horizontaux, les vues horizontales. Et petit à petit, ils ont développé avec la langue de vue qui rajoute l'un sur l'autre. Donc, on ne peut pas non plus te dire que dans les peintures chinoises, il y a que ça n'existe pas de respective lignée, etc. Ça, c'est justement un grand sujet que je suis en train de travailler là-dessus. J'ai un projet de recherche là-dessus.
Ben, ça tombe bien, parce qu'effectivement, le sujet est vaste. Parce que aussi, la fonction de l'œuvre d'art en Chine, dans l'histoire, elle n'a pas eu juste une minute là. La fonction de l'œuvre d'art en Chine n'est pas la même que la fonction de l'œuvre d'art en Europe.
Pour moi, de toutes sortes de catégories existent. Il y a des peintures, des fresques dans les tombes. Il y a aussi des rouleaux de peinture. Peut-être qu'on peut dire sur les rouleaux de peinture, c'est vraiment quelque chose de particulier.
Ah oui, ça nous, on n'a pas et on n'a jamais eu.
Mais en Europe, il y a aussi des fresques qu'on peut dire lire horizontalement. C'est pour, la mémoire, pour la lecture. Là, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble.
Oui, c'est tout à fait vrai. Chen Yuk Treiber, on vous retrouvera le 26 août prochain à l'International Academy lors d'un débat sur le statut de l'image en l'Occident à travers la Galerie du Temps du Louvre-Lens. Et là, je pense qu'on aura beaucoup plus le temps de développer...
Une question très vaste.
Ben, voilà, effectivement, il faudra aller faire un tour au Louvre-Lens, à la Galerie du Temps, et réfléchir à comment un Chinois regarde cette Galerie du Temps et comment un Occidental, et voilà, on fera une réflexion croisée là-dessus.